Loz Actuali.
Loz Actuali.
Revue de presse.
Hashtag
portrait chinois.
Et bien sûr,
l'invité du jour.
C'est tout de suite dans Loz Actuali.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans la saison 3 de Loz Actuali, le premier numéro. Bonjour Eric.
Bonjour à toutes et à tous.
Le seul survivant de l'équipe précédente.
Non, on est tous les deux survivants.
Oui, oui, tous les deux, mais avec moi, c'est ça que je voulais dire. Bon, on salue nos amis qui ont assuré l'émission les années précédentes et on accueille deux nouveaux chroniqueurs autour de la table. D'abord Léa, que vous avez déjà découvert sur les ondes de 48FM depuis quelques semaines, notamment dans les infos locales, qui nous rejoint dans ce Loz Actuali. Bonjour Léa.
Bonjour à tous.
Et Bastien, bonjour. Voilà, qui nous rejoint également. Et on fera le tour, évidemment, on découvrira, chacun va intervenir dans cette émission. Comme d'habitude, notre invité aujourd'hui est Henri Clément, président du syndicat apicole de Lozère. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc on va parler aujourd'hui abeilles, avec un petit peu en perspective cette fête de la nature, de l'étoqué du cèpe, fête des abeilles. Ce sera un ensemble le week-end prochain à Mende. Donc ce sera l'occasion un petit peu de parler aussi de tout ce contexte, parce qu'on parle beaucoup du rôle des abeilles dans notre écosystème. Donc on en parlera bien sûr. Au programme également, Eric, une chronique.
Oui, une profession que je ne porte pas dans mon cœur.
Ah, voilà. Une deuxième chronique pour Léa.
Oui, que j'espère intéressante, mais qui ne sera pas forcément dans le positivisme absolu.
Bon. On retrouvera le portrait chinois, ça c'est habituel. Le hashtag, et ce sera donc Bastien.
C'est ça, le hashtag Moment.
Bon, voilà. Et puis bien sûr, la revue de presse, il y aura plein de choses à découvrir dans cette revue de presse. C'est tout de suite après ça.
Loz Actuali.
Première partie de cette émission, donc avec Henri Clément, président du syndicat apicole de Lozère. J'ai cherché un petit peu sur le net, on trouve quelques infos sur vous. On me dit, dès le 1er mars 1960, à Fraissinet-de-Fourcq, en Lozère.
C'est
exact, hein, au cœur du parc national des Cévennes. Après un cursus en hippocagne et en cagne, Henri Clément obtient une maîtrise d'histoire à la faculté de Montpellier et parallèlement, il se passionne pour les abeilles et devient apiculteur professionnel avec 300 ruches installées en Lozère, dans le Gard, l'Hérault et l'Aude. Est-ce que c'est juste
vrai,
voilà. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous intéresser aux abeilles et au miel quand on sort d'une fac d'histoire?
C'est-à-dire qu'en fait, depuis tout petit, j'ai bercé dans le monde des abeilles, puisque j'ai appris à lire dans les revues apicoles. Et mon père, qui avait 80 ruches, nous a tout petit initié à l'apiculture. À 12 ans, il m'a amené au rucher, et là, j'ai été extrêmement surpris par la quantité d'abeilles qu'il y avait dans une ruche. J'ai fait un malaise, je leur ai dit « jamais je ferai de l'apiculture ». Et puis à 17-18 ans, j'y suis retourné, puisque mon frère ne pouvait pas aider mon père. Et j'ai eu le coup de cœur, le virus, et donc je me suis dit que c'est quand même une belle activité, et tout en continuant mes études, j'ai décidé de devenir apiculteur.
On parle de beaucoup d'abeilles dans une ruche, c'est-à-dire que ça peut représenter combien, à peu près?
Quand vous ouvrez une ruche au mois de juin-juillet, il peut y avoir 60 000 abeilles, c'est-à-dire qu'il y a quasiment autant d'abeilles que de Lozériens en Lozère. Donc c'est extrêmement impressionnant. Et on peut se dire que toutes les abeilles représentent une menace. En fait, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est vrai que c'est impressionnant d'ouvrir une ruche.
Alors, ce métier, vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi il consiste? Vous allez voir les abeilles régulièrement?
Le métier d'apiculture existe depuis très très longtemps. Hein. Les apiculteurs, il y a là dès le Moyen-Âge. Et en fait, le travail d'un apiculteur, c'est d'entretenir ses colonies, donc ses ruches, pour parvenir à produire du miel. Et ce métier a fortement évolué depuis 30 ans, puisqu'il y a 30 ans, on avait un métier qui était relativement facile. Il n'y avait pas le varrois, il n'y avait pas le frelon, on n'avait pas les mortalités qu'on connaît aujourd'hui. On est passé d'un taux de mortalité qui était de l'ordre de 5% par an il y a 30 ans, à en moyenne en France, 30% aujourd'hui. C'est-à-dire que les apiculteurs qui ont, mettons, 100 ruches en perdent 30 chaque année qui doivent reconstituer. Et aucune filière agricole ne supporterait d'avoir un tel taux de mortalité. Donc il faut être extrêmement présent, renouveler sans cesse les cheptels, renouveler les reines, parce que la reine, c'est le cœur de la ruche, c'est-à-dire que c'est elle qui pond toutes les abeilles. Si elle est déficiente, ben, la colonie ne peut pas produire du miel. Et donc ça fait partie du travail de l'apiculteur aujourd'hui, de renouveler ses reines régulièrement. Et c'est là aussi un signe inquiétant, parce qu'on est passé de reines qui vivaient 4 ans à des reines qui vivent 2 ans et demi maximum.
Tout à l'heure, on parlait de 300 ruches et 300 ruches au même endroit. C'est...
Non, c'est voilà. 300 ruches. C'est des ruchers de 20-25 ruches qui sont disséminées. Et aujourd'hui, on est confronté à une demande des consommateurs qui veulent des miels variés, ce qui est normal. On est confronté au bouleversement climatique. Donc, pour ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, moi, j'ai souhaité diversifier mes ruchers de façon à avoir une gamme de miel et d'être moins sensible aux fluctuations climatiques, de façon à quand même maintenir une productivité à peu près régulière, même si c'est compliqué, chaque année.
Et c'est pas compliqué d'être loin de ces ruches, parce qu'il faut vous y alliez quand même.
Les ruches, vous savez, elles sont sur Terre, les abeilles, depuis plus de 80 millions d'années. Donc elles ont vécu bien avant l'être humain. Elles ont colonisé quasiment toute la planète. On en trouve quasiment au cercle polaire, on en trouve jusque quasiment dans les déserts. Mais par contre, régulièrement, il faut y faire des visites au bon moment pour procéder aux opérations indispensables à leur bon fonctionnement.
Il y a une grande menace en ce moment, c'est le frelon asiatique.
C'est-à-dire qu'il y a plusieurs menaces. C'est-à-dire qu'en fait, cet insecte qui est hyper résistant, puisque comme je vous le disais, il a plus de 80 millions d'années, en 30 ans, il a connu des agressions multiples. Il y a le varroa. Le varroa, c'est un petit acarien qui est passé d'une abeille Apis cerananae qui est en Asie sur notre abeille qui est en Europe et qui peut faire de gros dégâts. Il y a le frelon asiatique, vous avez raison, qui est arrivé en France en 2004-2005, a priori une ou deux femelles, et aujourd'hui il a colonisé quasiment tout le territoire, il est passé au Portugal, en Espagne, en Italie, en Angleterre, et en Lozère, l'année dernière, ou il y a 2 ans, il a créé de gros dommages dans les Cévennes, dans les gorges du Tarn, parce qu'au moment de la reproduction du nid de frelons asiatiques, les frelons prélèvent des abeilles pour nourrir la colonie. Et donc, ça stresse déjà, bien sûr, ils mangent des abeilles, c'est très gore, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, mais d'autre part, ils stressent la colonie, et donc les abeilles ne sortent plus pour récupérer du nectar et du pollen, et comme elles ne récupèrent pas du nectar et du pollen, la reine cesse de pondre, et donc la colonie s'amenuise. Et au bout d'un moment, comme la population vieillit et se réduit, ça met en danger la survie des colonies, d'autant plus qu'en Lozère, nous avons une apiculture de montagne et que la saison hivernale est très longue, comme ça a été le cas dans l'hiver 2017-2018, où l'hiver a vraiment commencé en début novembre et s'est terminé au mois d'avril.
Une des autres menaces sur les abeilles, c'est aussi les pesticides. Et vous avez été, vous, dans votre engagement aussi syndical, très, très à la pointe, justement, de ces revendications par rapport aux gauchos, notamment.
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, je suis devenu président de l'Union nationale de l'apiculture française en 1996. C'est au moment où le fameux gaucho est arrivé. Au niveau de l'Union nationale de l'apiculture, on s'est beaucoup battu depuis avec les scientifiques, avec nos avocats, pour faire interdire ces produits. J'ai moi-même été assigné au tribunal de Mende par la société Bayer en 2000, et ça s'est soldé qu'ils ont perdu, et ils n'ont pas fait appel. Mais il a fallu attendre 2014 pour que la communauté européenne retire ces produits de la mise sur le marché. Et il a fallu attendre, et ça a été un dur combat, la loi biodiversité de 2016, pour qu'il soit interdit en France à partir de 2018 avec des dérogations jusqu'en 2020 pour les néonicotinoïdes. Et là, dans le cadre de la loi qui est issue des États généraux de l'alimentation, on a réussi, ça n'a pas été simple, à élargir cette interdiction, non seulement aux néonicotinoïdes, mais aux autres produits qui ont le même type d'action. Et donc, on peut espérer que d'ici 3-4 ans, peut-être que les sols vont arriver à retrouver une certaine qualité, même si de nouveaux produits arrivent, et donc il faut continuer à se battre sur la question des pesticides. Mais simplement, il y a 20 ans, on était très peu nombreux, et aujourd'hui, la population a pris conscience des dangers de ces produits, et les scientifiques également. On s'interroge sur la santé humaine. Il est clair qu'il est grand temps de changer d'orientation en matière agricole.
Il y a la question du glyphosate aussi. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps qui montrait justement les effets du glyphosate sur les abeilles.
C'est exact. C'est-à-dire qu'en fait, pendant très longtemps, on ne s'est pas préoccupé du glyphosate. Nous, on redoutait. De toute façon, déjà, il était toxique sur le fait que c'est un herbicide et qui peut être apposé, pulvérisé sur des plantes en fleurs. Dans ce cas-là, il y avait des mortalités d'abeilles, mais on ne pensait pas qu'il y avait un tel danger pour les abeilles. Aujourd'hui, c'est prouvé sur le plan scientifique. Là aussi, il faut arrêter la politique des petits pas. Il faudrait que les pouvoirs publics prennent le taureau par les cornes, ne fuient pas leurs responsabilités et s'engagent véritablement pour le faire retirer.
Est-ce que vous êtes pour une agriculture biologique ou non ?
Nous sommes naturellement favorables à une agriculture biologique, mais je dirais simplement c'est qu'on a en France une agriculture qui privilégie l'agrochimie, puisque malgré les plans de réduction des pesticides, on en consomme de plus en plus. C'est un véritable échec pour nos pouvoirs publics. Et il est grand temps de revenir à une véritable raison et de supprimer ces pesticides qui sont toxiques non seulement pour les abeilles, on le voit pour le gaucho. Aujourd'hui, dans le monde scientifique, on sait que ces produits sont toxiques effectivement pour les abeilles, mais également pour les organismes du sol, pour les petits oiseaux, pour les mammifères et pour les eaux. Donc c'est une contamination à bas bruit qui est générale. Donc il faut en sortir. C'est évident. Comme je le dis assez souvent, il faut quitter l'agrochimie pour retrouver les voies de l'agronomie. Ça paraît, c'est pas révolutionnaire, c'est simplement de bon sens.
On vous a vu à la télé il n'y a pas très, très longtemps, c'était okay. une petite fois, hein, parce ouais. que je pense que vous avez eu plusieurs ouais, fois, ouais. mais toujours avec cette...
C'est drôle comme le regard des gens dès qu'ils vous voient à la télé, c'est vraiment assez mais... surréaliste, parce que bon, on passe à la télé, c'est un média comme oui. vous, la radio, comme la presse, franchement, on y accorde de l'importance, ça ne mérite pas.
Mais voilà, c'était sur un débat sur la qualité des miels,
oui.
voilà, hein, qui était mise en avant, avec des analyses qui ont été faites donc par France 2 sur la qualité de différents miels qu'on peut trouver dans n'importe quelle grande surface, etc., y compris un miel d'un producteur, on va dire un peu comme vous, d'un apiculteur vraiment dans qui fait ça de façon vraiment directe. La plupart des miels qui ont été testés sont des miels mélangés.
Ben, c'est-à-dire qu'en fait, la consommation en France, c'est autour de 40 000 tonnes. Avant, on produisait 32-33 000 tonnes. Dans les bonnes années, on en produit, comme ce sera l'année 2018, autour entre 17-18 000 tonnes. Et les mauvaises, comme l'année dernière, on en produit 10 000 tonnes. Donc on importe en moyenne 30 000 tonnes de miel par an. Partout dans le monde, à part dans les pays d'Asie, la production de miel diminue. Donc, comme tout ce qui est économique, il y a une forte tentation pour produire des faux miels qui remplacent la production de miel naturel. Et donc, on s'est battu, là aussi, au niveau de l'UNAF, avec l'association Que Choisir, pour obtenir un étiquetage beaucoup plus précis vis-à-vis des consommateurs. C'est-à-dire qu'à partir de la directive miel de 2002, la possibilité était d'apposer sur les pots l'étiquette indiquant origine UE et non UE. Moi, ça me fait sourire. Ça prouve que c'est du miel de la Terre, pas de Mars ou de la Lune. Mais vous savez, on n'en sait rien. Et dans le cadre de cette directive, il était aussi possible de demander que soit indiquée l'origine des miels qui composent ces miels de mélange. Parce qu'en fait, les apiculteurs, comme moi ou comme la plupart des apiculteurs lausériens ou même français, on ne mélange pas les miels. Mais les conditionneurs mélangent les miels pour avoir un miel à peu près régulier, comme le consommateur s'y attend. Et donc, à partir de la loi EGAL, la issue des États généraux, on a obtenu qu'effectivement, à partir de 2019, sur les pots soit indiquée l'origine par pays des miels qui composent ces miels d'assemblage. Voilà. C'est un progrès. Espérons que plus tard, on arrivera sur des pourcentages, parce que ça peut être fait sur le plan simplement comptable. Et il faut espérer que ça rendre le marché du miel un peu plus transparent, parce qu'on peut trouver de très bons miels partout dans le monde, il ne faut pas non plus être chauvin. On peut trouver du très bon miel en grande distribution aussi, mais il y a une vraie menace, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de miels qui ne sont pas du miel. Quand vous voyez que, par exemple, le miel d'Ukraine, aujourd'hui, rentre en France à 1,80€, alors que notre coût de revient est à 4,50€, vous comprenez bien que les apiculteurs qui vendent en vrac ne peuvent pas survivre. Donc, il y a même une question de survie de l'apiculture.
Alors, donc c'est du sirop de sucre, c'est des mélanges, de la chauffe, c'est...
C'est des produits qui sont extrêmement bien élaborés, parce que souvent, ce sont des Chinois, des Vietnamiens qui produisent ces miels-là, y compris quand ils sont vendus en Ukraine. Ils deviennent ukrainiens, mais ils sont d'origine chinoise. Et ce sont des laboratoires très performants qui arrivent à... C'est un peu comme le PO, vous savez. Ils développent des méthodes de production extrêmement fines. Et donc, ces miels passent les analyses de routine. Il faut creuser un peu plus pour se rendre compte que ce ne sont pas des vrais miels. Donc, voilà, le danger, il est là. Donc, si je n'ai qu'un mot à dire, c'est acheter du miel de producteur. Déjà, c'est des miels qui sont produits dans la région, et les abeilles qui les produisent pollinisent la biodiversité, parce que l'enjeu de l'apiculture, c'est, et peut-être de plus en plus, la pollinisation. Et vous êtes plutôt sûr d'avoir un très bon miel, comme ceux qui seront présentés samedi lors des journées de l'abeille et de la nature à Mende sous la Halle.
Voilà, on y reviendra dans la deuxième partie de l'interview. Peut-être, juste pour terminer votre portrait, plutôt de faire connaissance un petit peu avec vous, puis avec ce sujet des abeilles. Vous avez été aussi initiateur d'un programme Abeilles Sentinelles de l'Environnement en décembre 2005.
Oui.
Et donc, justement, c'est ce rôle de l'abeille pollinisatrice et qui...
C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que la population soutenait les apiculteurs dans leur combat contre les pesticides, mais ignorait énormément de choses sur les abeilles, sur leur rôle, sur la pollinisation. Et donc, on a décidé, avec un ami qui est originaire des Cévennes d'ailleurs, de mettre en place un programme de sensibilisation qui s'appelle Abeille Sentinelle et qui consiste à installer des ruches dans des lieux publics, dans des entreprises, non pas pour faire du miel, bien sûr, elles font du miel, mais autour de ces abeilles, de faire des animations pour sensibiliser les enfants, les grands publics, les médias, les élus à ces questions d'apiculture. Parce que l'abeille aujourd'hui, vous l'avez bien compris, elle pose des questions essentielles qui dépasse le cadre de l'apiculture, c'est quelle agriculture, quel environnement, quelle alimentation. La pollinisation, c'est l'alimentation. Un tiers de ce qu'on consomme provient du rôle des abeilles et des insectes pollinisateurs. Quelle santé, parce qu'on s'aperçoit que les pesticides ont aussi une incidence sur la santé, et quel lien entre l'homme et la nature. Donc ce programme a été initié en 2005. Le premier partenaire, ça a été la région Languedoc-Roussillon avec Georges Frêche. Et ce programme, aujourd'hui, connaît un superbe développement. On a de plus en plus de partenariats. On fait attention à ne pas faire du greenwashing, parce que certains vont démettre trois ruches et être tranquilles en se disant « Top, je suis écolo ». Ce n'est pas le cas. Donc on les refuse. Et compte tenu qu'on a à peu près plus de 500 ruches sur l'ensemble du territoire et 80 partenaires, y compris à l'outre-mer, nous organisons chaque année les journées Happy Day, c'est-à-dire les journées la fête de l'abeille au niveau national, au mois de juin. Ce sont des animations, des extractions, des conférences, des ateliers, et tout cela fonctionne bien. Et on peut dire que depuis qu'on a mis en place ce partenariat, nos concitoyens sont devenus de plus en plus attentifs au devenir de l'abeille. Ils aiment le combat des apiculteurs et cela nous aide dans nos revendications. Et comme le programme a très bien fonctionné, qu'on a été beaucoup copié parfois par des gens qui étaient là que pour des raisons financières et pas du tout dans un cadre d'un engagement, comme peut le faire l'UNAF, on a mis en place en 2016 le label Apicité, qui est un label qui est organisé avec plusieurs associations, comme l'agroforesterie, comme les jardins de Noé, etc., qui valident l'engagement des communes qui soutiennent les abeilles et les pollinisateurs. Et on a eu le plaisir de voir que la ville de Mende avait obtenu un label 2 abeilles. Donc il y a une abeille pour ceux qui ont un engagement, mais qui demandent à progresser, 2 abeilles quand c'est plus conséquent, et 3 abeilles quand vraiment il y a c'est un peu un modèle. Et donc la ville de Mende a obtenu 2 abeilles, et c'est une très belle chose. Et d'ailleurs, cette année, nous serons au Salon des maires à Paris. Nous avons un stand pour présenter nos différents programmes. Et la remise des nouveaux labels 2018 se fera au Salon des maires.
Très bien, ben on continuera à parler évidemment abeilles et on parlera justement du programme de ces toquets du CEP, fête de la nature, fête et fête de l'abeille qui est prévu donc tout ce week-end 5, 6 et 7 octobre à Mende dans la deuxième partie de l'émission. Mais tout d'abord, on va écouter la chronique d'Éric juste après.
L'OZ Actuali.
Première chronique, Eric, et il va être question donc d'un métier que tu n'aimes pas.
Non, pas vraiment. S'il est bien un anglicisme que l'on rencontre à tout bout de champ et surtout au creux des oreilles des ministres et des parlementaires, c'est bien le lobby. Attention, je ne parle pas là de les lobbies à côté des bonbons. C'est un lieu tout à fait sympa, je m'y suis promené encore en famille hier. Non, je vais vous parler des lobbies. Ces influenceurs qui parviennent de plus en plus à intervenir dans la vie politique. À Washington, la capitale des States, on compte 77 lobbyistes par parlementaire américain. À Bruxelles, plus de 15 000 de ces influenceurs professionnels arpentent les couloirs de la Commission et du Parlement. En France, c'est moins quantifiable, car la pratique est moins institutionnalisée. Elle est souvent cachée, même si de plus en plus d'élus français reconnaissent la réalité de cette pratique. Tous les réseaux industriels ou de services, comme les sociétés pharmaceutiques, les industriels du tabac ou du nucléaire, les fabricants d'ampoules ou de plastique, se sont fait une spécialité d'influencer, dans leur sens, les amendements, les lois et les arrêtés, voire même d'en être directement à l'origine. Et quand ils ne sont pas invités à la table des négociations, ils passent par la fenêtre. Nicolas Hulot, qui était, comme tout le monde le sait, le ministre des avaleurs de couleuvre, de l'écologie et de la transition, a déclaré lors de sa démission de l'inquiétude qu'il avait de la place de plus en plus importante prise par certains lobbies dans les cercles du pouvoir. S'échangent alors petits cadeaux contre petits amendements, on se connaît, on se reconnaît. C'est d'autant plus facile lorsque le député est un ancien employé du groupe qui cherche à le convaincre. D'abord, ne pas nuire à ses propres intérêts. Et quand les relais d'opinion n'existent pas, il faut les inventer. Comme Sylvain Nolin, qui vient d'être recruté par le CEEV, Comité européen des entreprises de vin. À ne pas confondre avec le centre d'évangélisation Esprit et Vie. Oui, oui, ça existe bien et c'est une autre manière de lavage de cerveau, mais c'est un autre sujet. Donc le lobby qui nous intéresse est un lobby pro-mélange de vin rouge et vin blanc pour faire du vin rosé. Ce qui a forcément entraîné la colère des producteurs de vrais vins rosés contre cette proposition européenne. Et bien comme par hasard, quelques mois auparavant, notre gourou du faux vin rosé était membre du cabinet du ministre de l'Agriculture et chargé de négocier cette évolution législative. Rien de facile de se procurer des propositions de loi avant même que les députés aient accès au projet. Bon, en même temps, cela paraît logique. Il leur arrive même parfois de rédiger les projets de loi, comme avait pu le faire TF1 dans le cadre de la réforme de l'audiovisuel public. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Mais les lobbies possèdent plusieurs techniques pour faire avancer leurs projets. Ils peuvent ainsi payer des scientifiques pour semer le doute et la confusion. C'est même une tactique courante. On peut prendre, par exemple, la manière dont certains tentent de minimiser les dangers du glyphosate passif. C'est comme le tabagisme passif, mais avec des grandes bouffées de Roundup. Alors, dans le groupe Bayer-Monsanto, le groupe Bayer-Monsanto trouve des professeurs trouve-tout, ouais, ça existe encore, qui émettent encore des doutes sur la dangerosité du produit. Et s'ils ne trouvent pas, ils n'hésitent pas à simplifier ou à exagérer. Manger 15 paquets de gâteaux par jour est bien plus dangereux pour la santé que le glyphosate passif. Alors, heureusement, ils ne gagnent pas à tous les coups. On a pu le voir tout à l'heure qu'ils avaient perdu contre notre invité. Et on le verra tout à l'heure en revue de presse. Alors, ils peuvent également payer quantité d'avocats, ceux avec les robes, hein, pas ceux qui se mangent, qui sont chargés de faire annuler les lois ou réclamer des dommages et intérêts. Oui, oui, beaucoup de dommages et intérêts. Alors, ils peuvent faire publier des rapports alarmistes aussi, de préférence juste avant un vote important, en exagérant l'impact économique sur le secteur ou en mentionnant qu'il n'existe pas actuellement de solution miracle, comme les climato-sceptiques qui trouvent que les tempêtes sont de plus en plus humides dans leur côté aquatique. Ils peuvent proposer des alternatives qui sonnent bien, mais qui sont peu efficaces. Comme l'interdiction de fumer pour les mineurs. Cela plaît aux politiciens et à la ménagère de moins de 50 ans. Quoique même à celle qui en a plus que 50, ça lui plaît. Ça ne fait pas vraiment de dégâts à la profession. Voire même envisager de créer une association avec un nom qui sonne bien, comme les dauphins contre la cigarette à l'école, pour se racheter une bonne conscience. Alors, ils peuvent également nuire à la crédibilité de leurs adversaires, ou même mieux, faire connaître que les organisations adverses les moins efficaces, voire les financer, et laisser comme choix la peste ou le choléra. Pas facile comme choix. Allez, disons, le choléra, la peste, on a déjà essayé la dernière fois. Donc, cette liste n'est bien évidemment pas exhaustive. Ils ont une imagination débordante pour défendre leurs intérêts. Donc voilà un boulot qui consiste la plupart du temps à menacer des gens ou à les acheter pour qu'ils imposent des produits ou des pratiques qui vont tuer d'autres gens. Donc niveau karma, ça doit pas être le top du top. À moins de vouloir être lobbyiste anti-lobby. Alors là, ça se tient.
Je ne sais pas, peut-être une réaction
c'est une très belle chronique et votre collaborateur a tout à fait raison parce que franchement, les lobbies, c'est dramatique. Quoi. Ils ont tous les moyens, toutes les techniques. Sur l'histoire du gaucho, ils reconnaissent pas contre la quasi-totalité du monde scientifique la toxicité de ces produits. C'est dramatique et ils utilisent tous les moyens. Et en fait, la grande stratégie, on l'a vu sur la cigarette par exemple, ça a duré pendant des années, on l'a vu aussi sur l'amiante, ça a pris 70 ans, il y a encore au Canada, il n'y a encore la toxicité de l'amiante, c'est de mettre le doute, en disant oui, non, mais il y a une étude comme ça, et puis une étude comme ça qui dit, nous on l'a vu sur les dossiers abeilles et toxiques et phyto, et notamment gaucho et tout ça, on a vu les scientifiques, il y a plusieurs types de scientifiques, il y a les scientifiques qui travaillent honnêtement, qui donnent leurs résultats. Il y a les scientifiques qui sont achetés par les firmes, il faut le dire, et qui réduisent leurs résultats de façon à ce que ça n'apparaisse pas. Et puis, vous avez ceux qui sont au milieu du guet et qui disent qu'il faut poursuivre, parce que ça leur donne du blé à moudre. Donc, c'est dramatique, c'est dramatique. Mais la France continue à laisser la place libre au lobby. Et on voit bien que quand il y a des gens qui ont quand même une certaine exigence, une certaine éthique, on peut lutter contre, ce n'est pas irrédible. Et puis, l'autre moyen qu'on peut avoir, et c'est nous ce que nous avons privilégié, c'est d'associer les citoyens, parce que les citoyens sont des électeurs, et ça peut permettre d'avancer sur les revendications. Mais les lobbies, c'est la plaie, voilà.
On fait une première pause musicale, et vous avez choisi Leonard Cohen, un Canadien errant, c'est ça ?
Bah oui, parce que je trouve aussi une très belle chanson, c'est une des rares fois où Leonard Cohen chante en français avec son accent québécois qui est charmant, et c'est une belle histoire, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde où il y a beaucoup de gens qui migrent partout, et c'est une très belle chanson.
On écoute.
Canadien errant, banni de ses foyers, parcourait en pleurant des pays étrangers. Un jour triste et pensif, assis au bord d'un flot, au courant fugitif, il adressa ses adresse ces mots. Si tu vois mon pays, mon pays malheureux, va dire à mes amis que je me souviens de, va dire à mes amis je me souviens de.
Deuxième partie de cette émission avec toujours Henri Clément, président du syndicat apicole de la Lozère. Et on va parler de ces toquets du CEP qui deviennent fêtes de l'abeille et de la nature, avec plein d'animations entre ce vendredi 5 octobre et ce dimanche 7 octobre. Alors dites-nous un petit peu ce qui va être justement autour du miel et de l'abeille. Qu'est-ce que vous proposez dans ce
C'est-à-dire
programme?
C'est-à-dire que depuis l'année dernière, avec la mairie de Mende, on a décidé d'associer les toquets du CEP et l'abeille et la nature, parce que tout cela va ensemble. Il faut arrêter de différencier les choses. Et donc, dans un mouvement commun, on a rassemblé tout cela. Donc, le vendredi est consacré principalement aux scolaires. Donc, à l'espace Georges Frêche, il y aura plusieurs écoles de Mende qui seront accueillies autour d'ateliers. Nous, en ce qui concerne l'abeille, eh bien, il y aura, comme l'année dernière, 4 ateliers. Un sur la biologie de l'abeille, un sur l'extraction du miel, un autre sur la découverte du miel et un quatrième sur la pollinisation et l'impact au quotidien pour les enfants. C'est-à-dire qu'en fait, sur une table, on met à leur disposition tout ce qu'ils peuvent trouver au petit déjeuner. Et puis on leur dit, voilà, maintenant on va faire un tri. Et comme ils ne sont pas nombreux, on le fait individuellement. S'il y avait demain plus d'abeilles et plus d'insectes pollinisateurs, voilà ce qui disparaîtrait. Tu bois du jus de fruits, on l'enlève, parce que s'il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas de jus de fruits. Tu prends du chocolat, il faut des abeilles. Tu prends de la confiture, non, du Nutella, les noisettes, il faut des abeilles. Donc on se rend compte qu'au bout du compte, s'il n'y avait plus d'abeilles, il y aurait simplement du pain, un peu de lait, un peu de beurre, moins qu'avant, et donc ce serait bien triste. Et donc là, ils se rendent compte, après on leur monte des graines aussi, ils se rendent compte de l'impact de l'abeille et de la pollinisation. Ça, c'est le vendredi. À 10h, je fais une intervention aussi pour les élèves du lycée technique et du Châtel en SVT sur la pollinisation, justement, pour leur expliquer comment ça fonctionne. Les dangers qu'il y a, les conséquences qu'on peut trouver là-dessus. Le soir, à 18h, il y a la remise des diplômes au moment de l'inauguration des élèves des différents ruches et écoles. Plus le soir, à 20h, je crois, il y a une conférence sur le frelon asiatique qui est faite par Christian Dumortier du GDS. Et le samedi, on se déplace, là, c'est grand public, sous les Halles, où il y aura bien sûr l'atelier de dégustation de miel, un atelier de bougies, tous les enfants qui passeront pourront faire des bougies et les prendre à la maison. Il y aura une exposition, il y aura des ateliers de vente de miel, bien sûr, et il y aura aussi un atelier de fabrication de pièges à frelons asiatiques. Voilà. Et puis le lendemain, il y a une sortie botanique avec un aspect apicole qui est organisé aussi par la mairie. Donc tout cela, il y aura également une tombola, c'est la nouveauté de l'année. On va faire une tombola avec un quiz autour de l'abeille. Et il y aura deux ou trois gagnants qui gagneront des ouvrages, du miel, du vinaigre, de magnifiques produits. Donc tout cela est festif, gratuit, convivial et permet de sensibiliser nos concitoyens au devenir de l'abeille parce que ce devenir, il est fondamental. Voilà.
C'est par rapport à ce que vous disiez juste avant, c'est une façon, ce type de manifestation, parce qu'on en voit aussi à d'autres moments, oui, vous parliez aussi des manifestations que vous organisiez de votre côté, c'est cette façon de créer ce lien avec la population le soutien.
Tout à fait. De la même façon qu'on a créé un comité des élus à l'Assemblée nationale pour lutter contre les lobbies, mon cher monsieur, de façon à associer des ambassadeurs des différents partis pour porter un autre discours au pouvoir public que celui qu'ils entendent de la part des firmes. On l'a fait aussi au niveau de l'Europe. Sur les phytosanitaires, je crois qu'il y a 2 ou 3 000 lobbyistes à Bruxelles, uniquement sur ce sujet. Et nous avons essayé de salarier 2 vétérinaires qui apportent une autre parole différente et ça a permis d'avancer. Voilà. Et puis, pour revenir à Lozère, qui est une merveilleuse terre de miel, je donne déjà rendez-vous le 13 décembre à la Chambre d'agriculture. Nous allons organiser le concours des miels de Lozère, qui est un grand moment festif où tout le monde on peut goûter les miels et il y aura des médailles qui seront remises aux uns et aux autres. Voilà.
Justement, en parlant de qualité du miel, qu'est-ce qui fait le goût du miel? C'est la race de l'abeille? C'est les fleurs qu'elle va butiner? C'est le travail de l'apiculteur? Est-ce que le travail de l'apiculteur peut être très important sur le goût? Qu'est-ce qui fait le goût d'un miel?
Le travail de l'apiculteur, c'est de choisir ses emplacements, c'est-à-dire de poser les ruches dans un environnement qui peut permettre la production d'un miel particulier. C'est-à-dire que si vous mettez des ruches au-dessus de Mende, vers la Boulaine, dans un endroit où il y a beaucoup de framoisiers sauvages, comme le fait Philippe Jaffuel, ben vous pourrez, si les conditions météo sont favorables, récolter un miel à dominante framoisier. Si vous voulez faire de la calune, vous montez au lac de Charpal et vous pourrez faire de la calune. Mais il ne faut jamais oublier que ce sont les abeilles qui font le miel à partir des fleurs et de leur environnement. Et aussi que le miel, c'est un des derniers produits authentiques, parce qu'en fait, en tant qu'apiculteur, quand on l'extrait, on ne lui ajoute rien, on ne retire rien, et il est le même que celui qu'il y a dans la ruche. Voilà. Alors, après, tous les miels cristallisent, donc ils deviennent durs. Certains apiculteurs, de façon naturelle, les ensemencent pour les rendre moelleux, mais le miel reste un produit naturel dans sa composition. Et il est reflet de l'environnement dans lequel les abeilles sont élevé. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai plusieurs ruchers, comme je vous l'ai dit. Les ruches qui sont dans les garrigues de l'Aude, elles ne font pas du tout le même miel que celles qui sont dans les Cévennes ou qui sont sur l'Aubrac. Voilà.
Et ce sont les mêmes races d'abeilles?
Oui, tout à fait. La race d'abeilles ne joue pas du tout sur la qualité du miel. Il y a plusieurs races d'abeilles, il y a l'abeille noire locale, et il y a différentes sortes d'abeilles, mais la race d'abeilles ne joue pas sur la qualité du miel, c'est sûr.
Léa, une question.
Pardon. Oui, non, je pensais à ça, mais il y a des miels qui sont extrêmement liquides. Est-ce que là aussi l'apiculteur intervient pour avoir cette
résistance? Il y a des miels qui restent liquides très longtemps, comme l'acacia, le sapin, le châtaignier, et puis d'autres miels qui cristallisent très vite. Ça peut être le cas, par exemple, il n'y en a pas en Lozère, ou très peu, ce qui est une bonne chose, des colzas. Le miel de colza, il peut cristalliser même dans les cadres, s'il fait froid, avant même la récolte. Et donc, le travail après de l'apiculteur, c'est de conditionner le miel en respectant le produit, c'est-à-dire en le chauffant éventuellement, mais pas à des fortes températures, pour préserver la qualité du produit, et proposer au consommateur. Mais en règle générale, les miels de montagne sont figés rapidement. Donc, un miel qui est figé, c'est plus un signe de qualité qu'autre chose. Parce qu'en fait, dans la grande distribution, vous trouvez des miels qui sont toujours liquides. Et ce sont des miels qui sont parfois pasteurisés et qui peuvent perdre une partie de leur qualité. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le miel, ce n'est pas que du sucre. Dans le miel, vous avez énormément d'oligo-éléments qui sont essentiels pour le bien-être et pour la santé. Il y a du magnésium, du sélénium, du bore, du barium. Ce sont des oligo-éléments qui sont essentiels pour la bonne qualité du vieillissement de nos cellules. Et donc, le miel, c'est un produit qui est fabuleux. C'est pour ça que quand on a du miel qui n'en est pas, ben, c'est comme... on est trompé. Voilà, c'est clair. C'est sucrant, mais ce n'est pas du miel.
Et pour parler aussi peut-être des produits aussi que vous proposez... Souvent, on trouve aussi des bonbons, de la gelée royale, des transformations aussi qui se font.
Dans la ruche, vous avez le miel, qui est la première des productions depuis toujours. On élève les abeilles pour le miel. Même si aujourd'hui, comme je vous le disais, la pollinisation prend le relais et vous allez, par exemple, aux États-Unis, puisque vous connaissez les apiculteurs, l'enjeu, ce n'est pas le miel, l'enjeu, c'est la pollinisation. Quand ils vont polliniser les amandiers de Californie, c'est 150 euros par ruche de la location pour 15 jours, 3 semaines. Et les apiculteurs américains n'ont rien à voir avec nos apiculteurs français. On en avait invité deux à Villefranche-sur-Saône dans un congrès. Il y en avait un qui avait 6 000 ruches, l'autre qui en avait 15 000, et le plus gros en a 60 000. Ça n'a rien à voir. Donc il y a le miel, il y a la propolis, qui est une substance que récupèrent les abeilles sur les bourgeons des arbres, qui a des propriétés antibactériennes qui sont fabuleuses. Donc il y a des gens qui travaillent la propolis avec des résultats. Simplement, c'est que l'industrie pharmaceutique aurait bien voulu se l'approprier, mais comme la propolis varie selon qu'elle est récoltée sur les arbres, selon la nature des arbres, elle est différente. Et comme en pharmacie, on aime les choses stables, on ne nous l'a pas encore piqué. On aurait bien voulu. Il y a aussi le pollen. Il y a aussi la gelée royale. La gelée royale en Lozère, on n'en fait pas parce qu'en fait, il faut des conditions climatiques plus favorables et ça demande une technicité très forte. Par contre, en Lozère, on a des apiculteurs qui font des savons, comme Madame Gonella, d'autres qui font du vinaigre de miel de très grande qualité, comme Eric Brun, qui fait un vinaigre, y compris à l'ail des ours, qui est fabuleux. Et puis, d'autres font des pains d'épices. Donc, on a une variété de miel en Lozère, c'est pas pour rien qu'on avait développé le concept de Lozère à terre de miel, et une variété de produits découlant de l'apiculture.
Donc j'imagine qu'on pourra découvrir tout ça sous l'aile au blé.
Exactement.
Voilà, place au blé à Amande, ça sera durant toute la journée de samedi, et puis la balade, on l'a dit, dimanche. Vient maintenant le moment de la chronique de Léa.
Loz Actuali.
Léa, tu vas donc nous parler de zoos.
Oui, donc je vais parler de zoos, mais pas n'importe lesquels, puisque je vais parler de zoos humains. Voilà, donc j'ai déjà bien cassé l'ambiance, mais vous en faites pas, ça va empirer. J'ai regardé un très bon documentaire d'Arte ce week-end qui s'appelle « Sauvage au cœur des zoos humains » et qui retrace l'histoire de ces peuples victimes de la colonisation. Donc des hommes et des femmes obligés de monter sur un bateau pour un voyage très long pour être exposés comme des bêtes dans des foires, des zoos ou des cafés-théâtres. Et c'est cette expression « comme des bêtes » qui m'a amenée à faire une comparaison, donc toujours avec les zoos, mais cette fois les zoos animaliers. Alors attention, loin, très loin de moi l'idée de minimiser ce qui s'est passé au début de ce XXe siècle pour ces milliers de personnes persécutées, j'ai simplement voulu actualiser le débat. Puisqu'après tout, nos zoos actuels ne choquent pas plus que les zoos humains en leur temps, ne sont-ils pas, d'une certaine manière, semblables? C'est la question que je me suis posée, mais pour cela, il faut d'abord se mettre dans une position d'antispéciste, à savoir le fait que les hommes et les animaux sont égaux, et donc que ce qui est présenté comme une insulte tout au long de ce reportage devient une vérité fondamentale, mais pour tous les hommes. Voilà, donc j'ai parlé féminisme, là je parle spécisme, racisme. Je crois que l'étiquette bobo-gauchiste n'est pas loin, donc je vais continuer. On va commencer par revenir un petit peu sur l'histoire des zoos humains qui débute à la fin de la grande fièvre colonisatrice à la fin du XIXe siècle. La première exposition de ceux qu'on appelait donc les sauvages se tient au jardin d'acclimatation de Paris en 1887, puisqu'évidemment, les grandes zones d'exposition, ce sont les grands pays colonisateurs, donc l'Angleterre, la France et l'Allemagne. Le mythe colonisateur, c'est un petit peu à bout de souffle, alors on essaye de lui redonner un coup de fouet en important des êtres humains venus des régions un petit peu exotiques. Le but de la manœuvre, évidemment, c'est bien de promouvoir la colonisation, mais aussi de jouer sur la hiérarchisation des races. Si aujourd'hui on sait qu'il n'y a qu'une seule race, la race humaine, auparavant les sauvages étaient soigneusement mesurés, étudiés, et une fois morts, ils étaient empaillés, voilà, pour être classifiés selon des théories anthropométriques très précises. Alors, cela vous a sans doute pas échappé, nous avons déjà là notre première similarité, puisque c'est exactement ce que l'on fait avec les animaux aujourd'hui. Les scientifiques rangent les chevaux dans les équidés, le lion chez les mammifères et les pigeons dans les volatiles. La différence majeure, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchisation, puisque la vie animale est représentée sous la forme d'un cycle où tous les animaux ont leur utilité. Seulement, lorsqu'on se penche sur les financements dédiés aux recherches et à la préservation de la faune, on s'aperçoit vite de l'énorme différence entre un éléphant et un crustacé, par exemple, qui sont pourtant aussi importants l'un que l'autre pour la préservation de l'équilibre naturel. Mais retournons un petit moment auprès donc, de ces sauvages. Le documentaire nous explique qu'ils sont là pour répondre à un désir d'exotisme de la part des Blancs. On peut enfin observer de près un peuple lointain qu'on a vu à travers des descriptions ou des clichés. On peut contenter donc sa curiosité et se rassurer, se dire que puisque ces hommes, qui d'ailleurs n'en sont pas, à peine vêtus, se plaisent à errer à même le sol et sont dans un enclos, ma foi, c'est bien la preuve que nous, avec nos chaussures et notre parfum, nous leur sommes supérieurs. On nous dit dans le reportage, ces êtres humains fascinent car ils sont représentés comme des sauvages. Ils passent leur journée enfermés dans un enclos, ils n'ont rien à faire qu'à se laisser regarder. Là aussi, vous n'avez pas besoin de moi pour faire le parallèle avec un tigre arraché à sa jungle qui tourne en rond devant des vitres attendant qu'on veuille bien lui donner son repas. Chaque peuple des colonies possède un impresario, ça je ne le savais pas. C'est un individu qui est chargé de mettre le peuple en scène, voilà. On lui crée un petit enclos, des huttes, des atmosphères censées s'accorder avec son territoire d'origine. Ainsi, les sauvages deviennent des cannibales mangeurs de blanc, parce que oui, il faut bien pousser à la vente, hein. Et alors le racisme devient peu à peu populaire, voire ordinaire. Malheureusement pour l'impresario, ils meurent tous les uns après les autres, touchés par la différence de température et les maladies occidentales. Certes, on les vaccine, nous dit le documentaire, on a peur de perdre la précieuse marchandise. Une marchandise, le mot est tombé, des hommes représentés comme des marchandises, des produits sans droit sur lesquels l'impresario doit payer des taxes pour passer les frontières. Ah, c'est quand même très dur, hein. Mais pour revenir à notre sujet, les animaux n'ont été reconnus comme des êtres sensibles qu'en 2015 en France. Voilà. Ils étaient avant représentés et traités juridiquement comme de simples meubles. Fait amusant, enfin tout est relatif, les visiteurs de zoos humains commencent peu à peu à partir de 1902 à se plaindre de la mauvaise santé des peuples exhibés. Ouais, c'est quand même con, hein, quand on paye une entrée, on a envie de voir un lion un petit peu qui s'agite, quoi, ou un sauvage qui fait la guerre aux blancs. Enfin bref. Mais pour se sortir cette mauvaise passe, évidemment, les directeurs se mettent à utiliser une nouvelle technique de vente et vous allez voir qu'ici le rapprochement est assez choquant. On commence à dire que ces peuples sont en voie d'extinction pour vendre plus de tickets. Ça vous rappelle quelque chose ? Alors bien évidemment, les Blancs oublient de dire que si ces peuples sont en voie d'extinction, c'est avant tout à cause d'une colonisation barbare de son territoire et du massacre qui s'ensuit. Vous pourrez alors m'objecter à cet instant que nos eaux d'aujourd'hui, que nous pensons d'ailleurs tout aussi civilisés que nous-mêmes, hein, posent de jolies pancartes devant la cage de l'orang-outan pour prévenir du danger de l'huile de palme. Mais à cela, je poserai également une unique phrase tirée encore du documentaire. Les gens n'avaient pas cette distance. Se dire « voilà, c'est un business, ce qu'on voit devant nous n'est pas réel, c'est du sensationnalisme, de l'exotisme ». Car si les zoos animaliers fonctionnaient sur la seule volonté du bien-être animal et de la sensibilisation, ils n'existeraient tout simplement pas. Ils ne mettraient pas de paille dans leurs gobelets en plastique, ne vendraient pas de burgers et ne pousseraient pas les animaux à la reproduction pour une soi-disant préservation de l'espèce. D'ailleurs, peut-on réellement parler d'une quelconque préservation lorsqu'un animal qui devrait être libre naît entre des murs qu'il ne quittera que pour d'autres murs ? Tout comme les zoos humains dont l'existence glaçante ne s'est achevée qu'au début des années 40, les zoos animaliers sont un business juteux et utile à la mise en lumière d'une supériorité fictive face à des êtres qualifiés de primitifs. Les zoos sont politisés et mis au service d'un soft power. Et si vous croyez que je pars beaucoup trop loin dans mes affirmations, prenez l'exemple du panda. Hein, c'est tout mignon, un petit panda. Le panda devenu un des plus forts symboles chinois de par sa rareté. Souvenez-vous, il y a un an, un bébé panda naissait aux eaux de Beauval en France. Et est-ce que vous vous souvenez de la personne qui l'a baptisé ?
Oui, c'était Brigitte Macron.
Brigitte Macron en personne. Il a de la chance, le petit bébé panda. Eh bien, cette année, c'est un okapi et un rhinocéros qui sont nés dans ce même zoo. Ces naissances sont considérées comme exceptionnelles et rarissimes et concernent des races bien plus en danger que le panda. Et pourtant, cette fois-ci, pas de Brigitte Macron, hein, pas de politique en vue. Par ailleurs, le petit panda n'aura pas le temps de s'acclimater à la France puisque tous les pandas naissant en dehors de la Chine appartiennent, eh bien, à la Chine. Eh oui, et ils doivent être rapatriés dans leur pays d'origine à partir de 2 ans. Donc voilà, par manque de temps, je vais couper court à ma diatribe en espérant avoir peut-être réussi à faire émerger un petit doute ou au moins un questionnement autour de cette table et chez vous qui écoutez cette émission. Je finirai sur une dernière citation tirée du documentaire d'Arte que je vous conseille par ailleurs de regarder, c'est un très très bon documentaire. Les zoos humains, c'est le passage d'un racisme scientifique à un racisme populaire. Il permet aux nations de prendre toutes sortes de décisions en vertu de critères raciaux. Peu à peu, la planète devient la propriété de ceux qui se pensent les seuls civilisés.
Très bien. Merci Léa. Donc à retrouver sur Arte Plus 7, puisque voilà, ce documentaire doit être disponible la semaine qui vient. On arrive à la fin de cette deuxième partie de l'émission avec le portrait chinois, juste après ça.
Loz Actuali.
Allez, le portrait chinois de notre invité Henri Clément, président du syndicat apicole de la Lozère. Alors, si on dit un animal, forcément, l'abeille.
Je vais dire l'abeille.
Eh oui, c'est...
Parce que l'abeille, ben, c'est un animal qui n'est pas vraiment domestiqué, qui butine selon son gré et qui travaille, gère, économise, fait beaucoup de choses avec peu. Voilà.
Un loisir.
Bon, j'aime bien la randonnée, le vélo, j'aime bien me balader. Voilà.
Un endroit préféré en Lozère ?
Le Mont-Aigoual. Je suis très attaché au Mont-Aigoual. C'est une très belle montagne et c'est un paysage magnifique. Et j'espère que l'observatoire de l'Aigoual, qui est un peu menacé actuellement par Météo France, sera sauvegardé et qu'on pourra continuer à avoir des météorologues sur le toit de l'Aigoual.
Un endroit préféré dans le monde ?
Bon, c'est difficile à dire parce que j'ai beaucoup voyagé. Et, mais disons que je dirais la Syrie. J'ai beaucoup aimé ce pays et je suis très touché par tout ce qui s'y est passé. Je suis allé en 2012, c'est juste avant la guerre. Et depuis, c'est une catastrophe humanitaire terrible. Et un pays où les gens sont accueillants, où il y a une vraie culture, il y a beaucoup de choses. Et c'est vraiment, vraiment dommage que ça se passe comme ça.
Une drogue favorite ? Le miel, peut-être ?
Non, je dirais le vin, parce que j'aime bien le bon vin, surtout quand il est bio. Je ne bois que du vin bio, parce que quand on voit les traitements qui sont faits, il vaut mieux se préserver. Mais on a en Languedoc-Roussillon de très bons vins qui méritent d'être bu.
Est-ce que c'est vrai qu'il y a un miel hallucinogène qui vient d'Amérique du Sud ?
Ça, je ne l'ai pas rencontré. Par contre, il y a des miels qui peuvent être toxiques, ça peut arriver. Vous avez du miel, par exemple, de rhododendron. Nous, celui qu'on a dans les Pyrénées ou dans les Alpes, ne l'est pas. Mais en Asie mineure, il y a des miels de rhododendron qui peuvent être toxiques. Et dans l'anabase de Xénophon, ma chère dame, il y a une armée qui a été décimée après avoir consommé du miel de rhododendron.
Ah. Une qualité, un défaut ?
Les deux têtus, comme un sévenol.
Un plat préféré ?
Bon, j'aime bien la saucisse d'herbe. C'est un plat sévenol, mais j'aime bien.
Un verbe
j'en ou
un
mot ? D'autres aussi. Hein.
Oui.
Un verbe, je dirais agir.
Un héros de fiction ou une héroïne ? Elle est très dure, celle-là.
Ouais, elle est très dure. Puis, non, mais j'aime bien. J'ai beaucoup lu quand j'étais gamin les bouquins Robinson Crusoe, par exemple. Voilà, c'est quelque chose qui m'a fait voyager, qui m'a fait rêver. Oui.
Un rêve, pour terminer ?
Un rêve, c'est que les abeilles retrouvent une sérénité qu'elles ont perdue. Et ce serait bien pour tout le monde. Voilà.
Merci. Et on fait maintenant une deuxième coupure musicale avec un deuxième choix pour vous. Donc là, c'est Bachung.
Ouais, j'aime bien Bachung. Je trouve que c'est quelqu'un qui me touche. Voilà. C'est un chanteur que j'aime beaucoup.
Osez Joséphine, c'est maintenant. Voilà.
Des berlines, on devine des monarques et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux livrés à eux. Ils font des petits, ils font des envieux. À l'arrière des dauphines, je suis le roi de ce drap, à qui sourit la vie. Marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire hennir les chevaux du plaisir. Osez, osez Joséphine, osez, osez Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie
mesurier, soyez ma muse. Et que le dur que les moments doux, dur que les moments doux. Et que le doux. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit. Rien ne justifie. Osez, osez. Osez, osez. Osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit. Rien ne justifie.
Loz Actuali.
Alors, c'est maintenant le moment de la rubrique hashtag. Et donc, Bastien, de quoi veux-tu nous parler ?
Alors, je vais parler de la Ryder Cup 2018, devenue entêtée sur certaines heures ce week-end sur Twitter, puisque cet événement sportif avait eu lieu du 28 septembre au 30 septembre au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines, en France, pour la toute première fois. Alors, le Ryder Cup, c'est quoi ? Puisque moi non plus, je ne savais pas ce que c'était. Alors, c'est un événement sportif né dans les années 1927 et l'une des compétitions de golf les plus connues au monde. Donc, de vendredi à dimanche, 24 des meilleurs joueurs mondiaux s'affrontent, répartis en deux équipes de 12 golfeurs, avec un capitaine qui réunit 12 des meilleurs joueurs américains contre 12 des meilleurs joueurs européens sur 3 jours. Alors, le Ryder Cup alterne tous les 2 ans entre les deux continents, donc l'Europe et les États-Unis. Alors, beaucoup de tweetos demandaient les règles du jeu, puisqu'en France, le golf n'est pas un des sports les plus populaires. Alors, j'ai mené ma petite recherche et c'est 3 formats de matchs de 28 parties en 3 jours. Alors, du vendredi et samedi, les joueurs participent à des matchs en four-ball et en foursome. Alors, vous savez peut-être ce que c'est, four-ball, foursome ?
Pas du tout.
Alors, en four-ball, c'est quoi ? C'est pour 4 balles, 2 duos s'affrontent. Donc, chaque joueur de chaque duo joue sa balle sur les 18 trous du parcours. Chaque trou est remporté par l'équipe du joueur qui a réalisé le plus faible score. Il y a donc 8 matchs sur 2 jours. Par la suite, il y a en foursome. Donc, c'est les joueurs de chaque duo jouent alternativement la même balle. Le duo qui a réalisé le plus faible score remporte le trou. Là aussi, il y a 8 matchs sur 2 jours. Par la suite, dimanche, donc hier, il y a eu 12 matchs en simple. Sur chaque trou, le joueur avec le moins de coups joués remporte le trou. Celui avec le plus de trous gagnés donne le point à son équipe. Donc la première équipe à atteindre le score de 14,5 points est sacrée vainqueur. Alors voilà, c'est des règles un peu compliquées, mais c'est quand même une des compétitions les plus populaires au monde. Donc c'était intéressant de les dire. Et donc 12 320, c'est le nombre de tweetos qui demandaient pourquoi cela s'appelait Ryder Cup. Alors il n'y a pas d'explication, tout est parti de deux tournois de golf entre Britanniques et Américains. Et perdu par les seconds en 1921 et 1926. Et après cette deuxième victoire, le capitaine de l'équipe de Grande-Bretagne, Abbé Mitchell, demande alors à un mécène qui s'appelait Samuel Ryder de faire fabriquer une coupe de 18 carats. Le nom du trophée est resté. Voilà, c'est tout bête. Et le hashtag Ryder Cup 18 a réuni tout de même 143 000 publications sur Instagram, donc un sacré hashtag moment. Et du coup, pour information, puisque l'Europe a remporté hier la Ryder Cup, 17,5 points contre 10,5 face aux États-Unis.
Alors, comme Bastien vous l'a révélé, cette émission n'est pas en direct et a été enregistrée lundi. Et voilà, elle sera diffusée, évidemment, sur les créneaux habituels. Mais ça, de toute façon, chaque fois qu'on enregistre cette émission, vous le savez, puisqu'on a toujours, on fait toujours la gaffe d'une façon ou d'une autre. Donc, il n'y a pas de souci. Merci, Bastien, pour cette, première...
J'avais relevé 2-3 hashtags là, sur la semaine. Là, oui. J'avais le hashtag... poulpe ou phoque, je sais pas trop. Je sais pas si vous l'avez vu, celle-là.
Ah, ce phoque qui envoie,
un poulpe à travers la tête d'un kayakiste.
J'ai pas vu.
Ah, t'as pas vu, donc ça a fait un gros débat. C'était beaucoup plus important que l'Aquarius, a priori, qui était un autre hashtag, à mon avis, qui méritait peut-être un peu plus de place. Je pense qu'on a eu un hashtag tsunami.
Oui, aussi.
malheureusement. Et là, sur le week-end, hashtag Macron, où on a vu quelques photos de notre cher président en compagnie d'un groupe de rappeurs, je crois.
Oui, c'est plus compliqué que ça. C'était une visite à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Il y a eu beaucoup d'images, effectivement, tout au long de ce week-end. Voilà, merci pour ces ajouts, Eric. Tout de suite, la revue de presse.
Loz Actuali.
Allez, on arrive à la fin de cette émission avec la revue de presse et on commence avec Eric, avec un medley. Que tu ne savais pas choisir.
Voilà, là, j'ai pas su choisir. Déjà, je voulais revenir sur 2-3 déclarations du plus grand conseiller d'orientation de France. Donc, ta mère mérite mieux que ça, traverse la rue pour trouver un emploi, t'apprends d'abord à avoir un diplôme, donc il faut croire qu'il a raté sa vocation, notre cher président. Pendant ce temps-là, justement, il y en a qui en prenaient une grosse de leçon. Ainsi, un tribunal de San Francisco a condamné le fabricant du Roundup, racheté par Bayer en juin, à payer 289 millions de dollars à un jardinier atteint d'un cancer après avoir utilisé l'herbicide. Donc au terme de 3 jours de délibération, les jurés ont estimé que Monsanto était coupable de ne pas avoir donc mis en garde contre la dangerosité de ses produits. Alors portant les marques de son cancer, sur la peau, Dwayne Johnson était ému aux larmes lorsque la juge a lu le verdict. Alors ce verdict ne va pas soigner son cancer, mais il envoie un message fort. Et pendant ce temps-là, l'équipe de France de football a gagné sa 2e étoile en Russie. Alors ça m'a fait plaisir, mais pas autant que celle décrochée par le ciel du parc national des Cévennes. Pour plus d'un tiers de la population mondiale, il est impossible d'observer les étoiles, les constellations ou même la Voie lactée en raison d'un éclairage artificiel excessif. Mais nous avons encore cette chance, chez nous, de pouvoir contempler les nuits étoilées. Le parc national des Cévennes a reçu lundi 13 août le label mondial réserve de ciel étoilé. Il n'en existait que 12 au monde, dont celle du pic du Midi. Celle du parc national des Cévennes est donc la 13e. En parlant d'étoiles, justement, je dois vous parler d'un petit rat de l'opéra qui n'était autre que le visage tant recherché de l'origine du monde. Cette danseuse du 19e siècle a bien malgré elle fait couler beaucoup d'encre dans le monde de l'art. Donc elle est promis. Pour la prochaine émission, j'essaierai de rester un peu plus terre à terre. Quoique.
Non, mais déjà, ça fait plusieurs sujets. Peut-être Henri Clément, réaction sur le ciel ou sur le pesticide.
Le ciel, moi, je suis très heureux que le parc des Cévennes ait obtenu ce label. Je suis administrateur au parc et je m'en réjouis. Sur Monsanto, effectivement, c'est quand même une belle victoire parce que c'est pas simple d'affronter des géants comme cela. Et effectivement, la firme le savait depuis longtemps. Mais c'est comme pour le gaucho, depuis 20 ans, ils le savent, mais ils continuent à le nier. Et aujourd'hui encore, Bayer comme Syngenta disent que les apiculteurs sont mauvais et que ce n'est pas leurs produits qui sont en cause. Parfois, ce sont les agriculteurs qui n'utilisent pas les produits comme il faut, mais le produit en lui-même est bon. Donc on est habitué à ce genre de choses. Et puis, comme vous, je suis un peu choqué par le traitement de l'information quand je vois qu'on parle d'un poulpe alors qu'il y a des choses plus importantes. C'est un peu surréaliste.
Bien, on poursuit notre revue de presse avec Léa, avec un code vestimentaire imposé dans un lycée de l'Hérault.
Et oui, je vais pousser un petit coup de gueule féministe, hein, parce qu'après tout, je suis la seule fille autour de ce plateau, donc voilà, autant en profiter. Donc je vais parler d'un article que j'ai trouvé dans Midi Libre il n'y a pas si longtemps. C'est un article sur un petit lycée dans l'Hérault, le lycée Jean Moulin à Pézenas. Et je donne toutes les précisions, hein, parce que si cette histoire peut être relayée, moi ça me ferait énormément plaisir. Alors, c'est pas une histoire originale, hein, on l'a entendu malheureusement des milliers de fois, mais là j'en parle parce que ce qui me choque, c'est qu'on est en 2018 et qu'on en parle encore. C'est donc la never ending story de la tenue au lycée, et plus particulièrement celle des filles, hein, puisque celle des garçons n'a jamais posé problème. Alors, l'histoire commence comme ça, c'est la rentrée et la proviseure de l'établissement est choquée par la tenue des lycéennes de son bahut. Elle décide donc tout bonnement de bannir les shorts et les jupes trop courts et les hauts trop moulants. Voilà. Des dizaines de filles ont dû alors rentrer chez elles pour avoir osé porter un crop top ou un mini-short contraire à la bonne décence de l'établissement. Elles sont chiantes, ces filles, hein, elles ne pouvaient pas crever de chaud comme tout le monde, franchement. Mais attendez, parce que j'ai gardé le meilleur pour la fin, ce n'est pas seulement la décence qui est invoquée par la proviseure de ce lycée, mais le fait que, et ça, même moi je ne l'avais pas entendu depuis que j'avais oublié de mettre un soutif en troisième, le fait que donc ces tenues déconcentrent les garçons. Et oui, évidemment, ces pauvres êtres primitifs qui n'ont pas, comme nous les filles, le pouvoir de se contrôler physiquement et qui sont donc obligés de vivre dans un monde d'épaules et de chevilles couvertes.
Tu nous as découvert.
Eh oui, eh oui. Sous peine de ne pas pouvoir suivre le cours de maths de Madame Chenu. Hein. Désolé de vous faire louper le bac, les mecs, franchement. Alors, évidemment, la proviseure qui n'a pas voulu commenter les faits a seulement dit qu'il s'agissait pas de sexisme, hein, évidemment, mais simplement du bon suivi du règlement intérieur. Alors, si j'avais été à la place de Midi Libre, moi, j'aurais été encore plus loin en disant même qu'il s'agissait d'homophobie. Oui, oui, puisque je ne vois pas pourquoi seulement des hommes pourraient être déconcentrés, hein, tant qu'à faire, autant l'emmerder jusqu'au bout. Midi Libre a donc contacté le rectorat pour connaître ce fameux règlement absolument non sexiste. Et, oh, surprise, aucune interdiction d'élastane au niveau des fesses et de la poitrine à Jean Moulin, mais simplement l'évocation d'une tenue et d'un comportement convenable demandé à tous. Tous, ça veut dire également l'équipe enseignante, hein, évidemment. Pas un mot donc sur la faible capacité de focus oculaire des lycéens. Alors, j'ai un petit message pour Madame la proviseure, au-delà de vos propos hors du temps. Si vous souhaitez que vos élèves se conduisent décemment, commencez par avoir vous-même un comportement décent envers elles et arrêtez, s'il vous plaît, de les humilier en les rendant responsables d'un comportement dont elles ne sont pas la cause directe. Et puis, autorisez-vous une ou deux petites jupes par an, hein, vous verrez, ça fait pas de mal et je suis presque sûre que vos collègues masculins seront capables de faire court malgré ça.
Voilà, le coup de gueule est passé. Merci Léa.
Bravo.
Avec plaisir.
On poursuit avec Bastien et la vaccination antigrippale.
Oui, alors je réagis aujourd'hui avec vous sur le reportage diffusé il y a 2 semaines sur France 3, région Occitanie, concernant la formation des pharmaciens à la réalisation des vaccins antigrippaux financés par l'Agence régionale de santé. Donc en effet, à partir de cet hiver, les pharmaciens seront habilités à pratiquer le vaccin de la grippe aux patients présentant une ordonnance de leur médecin. Alors qu'au travers ce reportage, nous pouvons observer les pharmaciens apprendre à piquer dans des bananes ou des oranges afin de réussir une injection intramusculaire. Alors je me posais cette question, hein, que fait-on des infirmiers libéraux qui doivent nous écouter probablement dans leur voiture, formés durant 3 ans à la vaccination, à la préparation et l'administration de produits injectables, aux risques et complications qui s'en découlent, ainsi qu'aux règles d'hygiène. La vaccination fait pourtant partie intégrante de leur profession et de leurs compétences, et pourtant, aujourd'hui, ils devront faire face à la concurrence des pharmacies. Un pharmacien formé une seule journée, aux frais de l'État, sera en droit de facturer 4,5 à 6,3 euros pour un vaccin, tandis qu'une infirmière facture ses vaccins entre 0 et 6,3 euros en fonction des soins. L'année dernière, lors du test de cette mesure, les pharmacies percevaient également une prime de 100 euros tous les 5 vaccins. Mais finalement, où est-elle l'économie ? Saviez-vous aussi qu'un infirmier libéral est payé à l'acte par la Sécurité sociale, mais quand il réalise 3 soins ou plus chez un même patient au même moment, le premier soin lui est payé entièrement, le deuxième à moitié prix et les troisièmes et suivants sont gratuits. Alors, je ne savais pas qu'il existait des soldes, hein, chez les soignants. Ça tombe bien, en ce moment, j'ai 3 murs à repeindre chez moi. J'espère que mon peintre me fera le deuxième à moitié prix et le troisième gratuitement. On marche quand même sur la tête.
Et autre coup de gueule, effectivement, et qui effectivement pose question sur cette rémunération des infirmiers libéraux. C'est assez particulier. Ben pour moi, dans la revue de presse, j'avais envie d'un peu interpeller notre invité du jour avec une actu qui a marqué un petit peu le mois d'août, avec Arnaud Bondebourg qui lance la marque de miel bleu-blanc-ruche et une école d'apiculture. Alors c'est vrai que le retiré de la vie politique, l'ancien ministre revient, s'est impliqué dans le miel. Voilà, il fait donc des abeilles, un de ses chevaux de bataille. Donc avec cette marque bleu blanc ruche, donc qui garantit un miel de français. Voilà, donc c'est un producteur de miel dijonnais. Apidis, qui est un des acteurs majeurs de la filière, nous dit Slate.fr qui publie cet article, qui sera chargé du contrôle qualité, du conditionnement et de la distribution du miel. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de cette
initiative ? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Écoutez, je l'ai rencontré il y a 1 an et demi. Il m'a présenté son projet, il nous a indiqué ce qu'il souhaitait faire. Bon. Son idée majeure, c'est de non pas d'acheter du miel, ça c'est secondaire, mais de faire en sorte que les apiculteurs renouvellent leurs colonies et développent le nombre de ruches. Je ne suis pas sûr que ce soit le vrai souci. C'est-à-dire qu'en fait, notre problème à nous, ce n'est pas d'augmenter le nombre de ruches, on peut, mais c'est surtout de réduire la mortalité. Parce que c'est comme une baignoire, si la bonne n'est pas étanche, vous pouvez mettre autant d'eau que vous voudrez, elle ne sera jamais pleine. Et donc ça, c'est le problème. Maintenant, bon, il lance sa marque de miel, pourquoi pas. Écoutez, moi, j'étais un peu surpris par les images que j'ai vues. Quand je le vois avec une vareuse, ça me laisse un peu sourire. Je me dis que le ridicule ne tue pas, mais bon, pourquoi pas. Hein. Écoutez, l'école d'apiculture, bon, visiblement, il y aura 6 ou 7 élèves avec un directeur. Un directeur pour 7 élèves, c'est bien.
Hein. École des hautes études apicoles.
Ouais, à Dijon. Ouais.
Et, entre 10 et 20 élèves par an, il mettait dans l'article.
Il y en aurait moins. Je pense que nos collègues de l'enseignement public seraient ravis d'avoir des directeurs pour 10 élèves ou 20 élèves. Maintenant, voilà, écoutez, je lui souhaite bon vent, hein, on verra bien ce que ça donne. Disons que dans le monde apicole, on est un peu dubitatif. Voilà.
Est-ce que c'est un métier qui recrute, justement ? Enfin, qui recrute,
C'est-à-dire qu'en fait, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on a à la fois une forte demande en miel de la part des consommateurs. De plus en plus de jeunes ou de personnes de tout âge, parce qu'il n'y a pas que des jeunes, il y a des gens aussi qui, un deuxième emploi dans leur vie, hein, qui veulent se mettre à l'apiculture, mais il faut bien comprendre que l'apiculture professionnelle est devenue très très compliquée. C'est-à-dire que sauvegarder les ruches, sauvegarder les colonies, produire du miel, c'est devenu un vrai défi. Et derrière, il y a la commercialisation. Et les apiculteurs qui, comme c'est le cas en Lozère, parce qu'on a des toutes petites récoltes, ont l'habitude de mettre en pot, de commercialiser, ça va. Mais les apiculteurs qui font du vrac, eux, sont en grande difficulté parce que les cours du marché au niveau mondial sont tellement bas qu'ils n'arrivent pas à valoriser leur production. Donc c'est un métier qui séduit aujourd'hui, qui est compliqué, et je crains que si des mesures de soutien ne sont pas prises avec de bonnes décisions au niveau gouvernemental, il y ait un effondrement à nouveau du nombre d'apiculteurs, notamment professionnels. Ce n'est pas le cas des petits apiculteurs amateurs familiaux. Nous, en Lozère, on en est à 4 ruches écoles, ils sont pleins, les gens sont ravis, ils installent quelques ruches pour faire du miel, c'est très sympa, c'est formidable. Mais je parle, moi, au niveau professionnel, c'est devenu très compliqué. Voilà.
Et sur la notion de marque, parce que derrière cette proposition, il y a la logique d'une marque qui trace la provenance française. C'est quelque chose qui, dans des organisations syndicales, etc., oui, c'est quelque chose auquel vous avez...
Vous savez, dans le cadre de la réglementation, déjà, on est obligé de mettre Origine France. Quand vous produisez un miel en Lozère, vous mettez Origine France dessus. Il veut surfer là-dessus, ça a toujours été son truc. Pourquoi pas? Si ça peut valoriser le miel de France, bon, je trouve que ça peut être une bonne chose. Maintenant, je reste sceptique. Il s'est lancé aussi sur les amendes. Il faudra voir sur la durée ce que ça donne. Parce qu'on a tendance à voir des gens qui s'investissent dans l'apiculture ou dans d'autres domaines. Et puis, ça fait un peu l'objet d'un petit feu follet qui dure 2-3 ans. Et puis, on passe à autre chose. Donc, attendons de voir. Mais je lui souhaite bon vent.
Très bien, merci en tous les cas, merci beaucoup Henri Clément d'avoir participé à cette émission. Je vous rappelle qu'elle sera rediffusée le jeudi à 19h, le mardi à 12h30, que vous pouvez retrouver sur la page Facebook Lose Actuali, tous les liens des articles dont on a parlé. Voilà, et puis donc on vous donne rendez-vous dans 15 jours. À bientôt.
À bientôt. À bientôt.
Salut.
Lose Actuali.